C'est où le mieux pour avoir le son?
Bah c'est devant, là où tu parles.
Attends, j'enregistre.
Au-dessus ou en dessous?
Au-dessus.
Attends, je lance.
Voilà. On est Mario Kart, mec. Waouh.
Un peu moins popé que la première.
Bienvenue à tous, bienvenue dans Histoire de bière, ce premier podcast sur la bière. On est hyper heureux d'être là avec Pierre Brancard et Gary.
Il me semblait t'avoir prévenu, Adric,
si que c'était pas moi qui faisais les intros.
Si tu recommençais une intro à la Jamy, je te pétais la gueule.
J'aime tellement Jamy.
Elle est très très bien ton intro, on va la garder. Donc voilà, comme Adric l'a expliqué, on va boire des bières en votre compagnie. Et d'ailleurs, on vous invite à prendre une bière.
Bah oui, allez-y, servez-vous une bière.
De tête, laquelle tu conseilles?
Pas une qu'on a aujourd'hui.
Pas une qu'on a aujourd'hui. Juste une bière pour chiller, décontracter pendant peut-être le blocus.
Peut-être trouvable en commerce pour simplifier la recherche.
Trouvable en commerce à Bruxelles, moi je vous recommanderais la Hopi Madame de Ensumeling. C'est une blanche assez amère avec un peu de houblon, très agréable à boire. Ou alors si vous êtes un peu plus connaisseur, allez chez Cantillon, près de la gare du Midi, il n'y a que ça de vrai. Coucou Charlie.
Il est bon.
Bah, au final, ça s'apparente peut-être à juste une simple masse. Bon. Est-ce qu'on trinque?
Charlie, on va le frapper. Bisous. Donc voilà, là maintenant, qu'est-ce qu'on boit? On boit en fait une blonde au martini, donc à 0,7%. Ouf. Donc c'est une brasserie vraiment pas loin de Bruxelles, à Nivelles, qui produit ses bières. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est une gamme en fait de bières aux alcools. Il en a fait trois, la Bubble Tini, la Bubble Sky et la Bubble Rum, donc respectivement au martini, au whisky et au rum. Mais il n'y a pas une seule goutte d'alcool fort dans aucune des trois bières.
Attends, tu m'as dit 0,7% d'alcool?
C'est 7%, mais en fait, il fait un jeu avec James Bond,
0,07. J'allais revenir sur toutes les blagues de l'étiquette. Puisque c'est une Bubble Tiny Martini, vous aurez la référence avec James Bond. C'est effectivement un taux d'alcool de 0,07%.
Ah, attends, Adrien ne nous a pas mis l'olive?
De quoi, d'olive?
Dans un martini.
Ah, et c'est précisé derrière. Prenez note que cette boisson n'est ni mélangée au shaker, ni à la cuillère. Shaken, not stirred, comme ils disent.
Dans le film.
L'anglais fut compliqué.
Comme je vous le disais, il n'y a pas d'alcool, donc pas de martini dans cette bière. Et pour la Bubble Sky, la Bubble Rum, pas de rhum, pas de whisky. Et en fait, il obtient le goût de l'alcool fort grâce à un mélange de thé. Donc c'est un brasseur qui, voilà, il mélange des thés et il arrive au final à avoir ce goût d'alcool dans la bière. Donc personnellement, je ne suis pas un amateur ni un grand buveur de martini, c'est celle que j'avais sous la main. Mais si vous avez l'occasion de goûter celle au whisky ou au rhum, on retrouve vraiment les marqueurs de l'alcool. Donc notamment avec le whisky, le côté tourbé, le côté barriqué. Pareil pour le rhum, le côté barriqué. Et moi personnellement, les premières fois que je les ai goûtés, j'ai vraiment été impressionné par le rendu de l'alcool dans la bière.
J'aimerais juste préciser qu'on n'est pas sponsorisé, c'est juste lui
qui
est fan.
Ah oui, bien sûr. J'aime vraiment bien ces bières. Donc,
si la prochaine fois tu peux ramener celle au whisky, tu décupleras mon attention.
Je vais tenter.
Eh ben, comment elle s'appelle encore la brasserie?
Ah non, c'est les bières Saint-Jean.
Les bières Saint-Jean. C'est belge.
Donc, c'est belge, c'est Nivelles, okay. À côté de Bruxelles. Donc j'ai d'ailleurs fait mes études là-bas. Bisous le collège. Il a aussi une gamme sur le cannabis. Donc il en a respectivement appelé une weed, hash et ganja. Et il a une gamme un peu japonaise avec une qui s'appelle la Kiko, qui est une bière au yuzu et au senchan. Donc vraiment,
j'ai pas compris
délicieux.
Les trois derniers mots,
oui, mais c'est pas grave,
ça a l'air exotique et
très
ça
beau,
m'intéresse.
Yuzu, c'est un citron japonais, et senchan, c'est une épice japonaise aussi, et vraiment la bière est délicieuse.
Mais dis-moi, Adrien, comment ça se fait que tu en sais tant et que ça te passionne?
Alors, on est vraiment dans. C'est pas sorcier ici, c'est pas possible.
Écoute, Gary va nous frapper. Hein,
on essaye un peu de prendre ta place, tu vois, on essaye de faire présentateur, tu constates qu'on n'est pas aussi bon.
Mais donc, moi, je suis délégué zytologie au CERC, donc c'est un nouveau poste cette année qui consiste globalement à promouvoir la bière artisanale au CERC Solvay.
Bah, tu dois en créer une, tu ne dois pas seulement la promouvoir. Parce que pour
la promouvoir de manière
générale,
donc la promouvoir au moyen du brassage amateur, donc arriver à faire découvrir aux gens comment on peut brasser soi-même. Au final, c'est relativement simple. Si vous êtes un peu motivé, avec une casserole et un kit tout fait, vous y arriverez. Il y a aussi l'aspect dégustation, donc partir hors du campus, aller visiter une brasserie comme on a fait lundi, recevoir peut-être des brasseurs sur le campus au deuxième quadrimestre, ou tout simplement aller chercher des très bonnes bières et les déguster tous ensemble.
Et d'ici 3 ans, concurrencer la brassicole.
Waouh.
Un jour peut-être.
Lors du beach. On va faire 5 jours de beach.
Et la dernière manière de promouvoir la bière artisanale au cercle, c'est ben voilà, aujourd'hui les podcasts, le KDUC, donc les divers moyens de communication du cercle pour montrer aux gens qu'on peut boire des bières locales délicieuses et pour pas forcément plus cher que les bières qu'on trouve en supermarché.
Combien tu vends ta bière ici ?
Au cercle, il n'y a pas vraiment de... La bière qu'on brasse, il n'y a pas vraiment encore de prix défini, vu qu'on n'a pas encore de canal de vente décidé. C'est en cours, on vous tiendra au courant.
T'en as fait... Donc là, en fait, juste pour votre information, c'est ton deuxième brassin ?
Alors, cette année, donc, cette année, c'est le premier qui va pouvoir être bu. Et l'année passée, on en a fait 5 au Q2.
5 ?
Oui, ça a été rapide l'année passée.
Mais en fait, l'année passée, l'avantage, c'est que comme il n'y avait pas d'activité...
Est-ce qu'on peut vraiment parler davantage ?
Voilà, l'avantage, c'est le seul, si, c'est un avantage, c'était vraiment le seul. C'est, voilà, c'est que comme il n'y avait pas d'activité, on savait brasser beaucoup, facilement, sans trop de contraintes logistiques. Et donc, on a enchaîné les brassins pour rapidement voir. En fait, la question l'année passée, c'est est-ce qu'on est capable de faire quelque chose de buvable ? Donc, même pas de bon, hein. De base, moi, vraiment, mon objectif, c'est est-ce qu'on va... faire quelque chose de buvable et qu'on va pas se tuer, quoi.
Donc si vous voulez un gros résumé de cette question là de la réponse à cette question là venez goûter le jus de bière que nous a fait aujourd'hui Adrien. Bon, en fait, ça manque un petit peu de pétillant. Ah, alors,
les brassins du Q2 de l'année passée étaient vraiment bons, et ceux qu'on a pu avoir en assemblée générale, enfin celle qu'on a fait assemblée générale, bien sûr confinée chez nous, franchement, on a passé un bon moment, en tout cas pour ma part, derrière la caméra, à déguster tes bières.
Moi, j'ai eu l'occasion d'en déguster qu'une seule.
Mais en fait, c'était 5 brassins, mais en fait, la décision qu'on a prise l'année passée, enfin la décision que j'ai prise l'année passée, c'est de faire tout le temps la même bière et d'à chaque fois faire des petites différences, des petits essais. Donc, pour aller en surface, il y en a notamment une où on a fait un dry hop, donc qui consiste à infuser du houblon à froid pendant la fermentation. Il y en a une où on a rajouté des écorces d'orange pendant l'ébullition. Il y en a une où on a filtré à la main avec des chinois parce que c'était le premier essai et qu'on
on parle on a bien fait... de l'outil, le chinois.
Voilà,
effectivement,
le chinois de cuisine, je ne sais pas si vous voyez, donc des petites épuisettes. On a filtré notre bière avec ces petites épuisettes de cuisine.
Ouais.
Voilà, donc il y a eu vraiment des essais, des tentatives, et on a fait cette première bière qui était la V1, et ici au Q1 cette année, j'ai voulu faire en fait la même bière, mais en utilisant les techniques qui ont fonctionné, donc le dry hop qui a vraiment bien fonctionné, et en prenant un houblon différent, c'est la seule petite variante que j'ai fait. Donc on a brassé une bière avec du Citra et du Willamette. Vous pouvez taper sur internet, c'est deux houblons très aromatiques.
Je qui ne saurais même pas comment les écrire, est-ce que tu peux juste nous dire l'orthographe de Citra et Willamette ?
Citra, c'est I-T-R-A, et Willamette, comme ça s'entend, avec deux T.
C'est O-U-Y, L-A, M-E-T.
J'aimerais vous partager une pensée, qu'on est quand même 3 délégués ici à avoir plus ou moins créé notre poste, podcast cette année, Lazito cette année, Archive il y a 2 ans.
T'as pas créé Archive ?
J'ai créé Archive, le poste Archive n'existait pas avant. Et je trouve que c'est un beau trio de passionnés que nous formons, en toute modestie bien sûr.
Donc, c'est vrai que c'est une très chouette remarque. À notre génie au final.
Non, au coopté.
À notre rapport au cercle.
Au coopté, génie incompris.
Notre rapport au cercle, et en espérant que le comité VLEC nous écoute.
Je savais qu'il y avait un intérêt derrière cette petite
On n'a pas parlé de Lara Sojo et de Sandrine Daoud au dernier podcast, il faut bien qu'on le fasse.
D'ailleurs, il faut dire deux fois leur prénom. Lara Sojo, Sandrine Daoud. Voilà.
Vous trouvez comment d'ailleurs la bière au martini ?
Non, mais du coup, en fait, elle se laisse boire, mais elle n'est pas du tout alcoolisée ?
Si,
7%. Mais il n'y a pas d'alcool fort.
En fait, je me suis fait, ok, ça va.
Il n'y a pas d'alcool fort dedans.
Effectivement, on ne le sent pas du tout, je trouve.
Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne rajoute pas d'alcool. L'alcool en question qu'il essaye d'avoir dans la bière, il n'en met pas pour obtenir le goût de cet alcool. Il joue avec, comme je dis, des mélanges de thé. Donc, il fait infuser les thés dans sa bière. Il faut savoir que chez les bières Saint-Jean, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il y a quasiment 60 à 70 brassins test pour arriver à cette bière. Donc en fait, généralement,
après c'est leur métier, Adrien.
Oui, bien sûr, mais il faut savoir le temps qui, enfin voilà, et le nombre d'essais qu'il a fallu pour arriver à une bière aussi équilibrée et avec le goût qui revient. Donc généralement, en fait, on fait des brassins linéaires, donc ils font 6 brassins, ils goûtent les 6 bières, on prend la meilleure, on garde les techniques de celle-ci et on refait 6 essais sur
avec
base de celle-là.
À chaque fois des petits changements.
Des petits changements, et donc en fait c'est pour avoir 60 brassins, donc c'est 10 sessions de 6 brassins sur lesquels ils gardent à chaque fois que le meilleur pour arriver au rendu final.
Interesting.
En tout cas, pour ma part, je la trouve très bonne, mais tellement éloignée finalement de la bière qu'on boit d'habitude ici que plate, servie un peu plus fraîche et un peu plus relevée au niveau du goût. J'ai l'impression que c'est même plus une bière. Non, c'est pas... non, vraiment un alcool différent, parce que je trouve qu'on ne retrouve pas du tout le goût classique pils habituel. Et servi à froid, même plate, je pense que ça peut se déguster dans des conditions. Après, ce n'est clairement pas moi l'expert zytologique autour de cette table.
Ah ben non, mais du coup...
qu'on m'apporte du vin rouge.
Du coup, Adri, pourquoi t'as créé ce poste?
Bah, on va pas se mentir, la première raison, c'est que j'étais délégué bas les fêtes en temps de Covid. Ouais. Je vous fais pas trop un dessin, mais je ne faisais rien. Et donc, je me suis dit, on va arrêter de se toucher et on va se bouger. Et donc,
bah, tu peux continuer à te toucher, Adrien.
Ouais, c'est vrai, j'aurais pu. Est-ce donc, que j'aurais été déchargé?
Et donc, comme tu voulais te bouger, tu t'es présenté trésorier, c'est ça?
Et donc, du coup, au lieu de brasser de la moula, tu brasses de la bière.
Merci pour les petits tacs, ça fait toujours plaisir.
Oh, tu peux me le renvoyer dans 5 minutes.
Ouais,
si tu veux.
Ouais, il arrivera. Charline m'aurait pas taclé. Et donc, voilà, pour arrêter de se la toucher, j'ai commencé donc. En fait, d'abord, j'ai commencé à goûter des bières artisanales. Parce que oui, j'en avais jamais vraiment goûté. Donc, quand je dis bière artisanale, je veux pas non plus dire juste une bière brassée localement et artisanalement.
Bah, globalement, t'étais un étudiant lambda, quoi. T'as
voilà,
de la
c'est
bière.
Ça. J'ai voulu goûter, en fait, d'abord des bières différentes, donc qui cassaient un peu les codes. Donc, notamment la bière qu'on a goûtée tout à l'heure et qu'on vous fera, qu'on vous mettra à la fin du podcast, qui était une bière. Voilà, c'est vraiment le genre de truc que je voulais goûter, c'est-à-dire des bières très fruitées, avec des fruits frais dedans, avec beaucoup de. J'aime bien les trucs un peu sucrés. Donc, voilà, c'était une Pastrigos à la vanille.
Ah, c'est la brasserie Iron Brewery.
Voilà, je les ai d'abord suivis sur internet et je trouvais leur bière géniale.
Comme ça, vous savez, juste petit aparté, Adri, on l'a goûté juste avant de commencer ce podcast 2.0. Délicieuse. Ah, vraiment, les arômes, c'est un truc de malade dans cette bière.
Pas les arômes, les fruits frais. Les fruits frais.
Oui, mais l'arôme qu'on a dans la bouche, on n'a pas
les
fruits frais.
Oui,
dans la
bouche. Bah, y a du fruit frais dans la bière, donc y a du fruit frais dans la bouche.
Ah, ok, alors les fruits frais qu'on a dans la bouche, incroyable. Mais vraiment.
Donc voilà, je vous invite à goûter des bières un peu des sour, des gosses, des bières aux fruits, avec des fruits frais dedans, parce que oui, ça existe. Donc notamment dans cette brasserie-là, ils mettent entre 200 et 300 grammes de fruits par litre de bière. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais
c'est beaucoup en vrai.
C'est vraiment beaucoup. Et donc c'est comme ça on arrive à obtenir vraiment le goût du fruit en bouche. Notamment celle-ci, je faisais la comparaison, on a vraiment l'impression de manger une tarte aux fruits, donc notamment ici à la goyave avec le côté vanille, et c'est pour ça qu'on appelle ça une pastrigos, il y a vraiment ce côté pâtisserie dans la bière. Et donc c'est un peu comme ça qu'est né mon amour un peu des bières artisanales, et je me suis dit voilà, go brasser des bières au cercle, des bières par les étudiants, pour les étudiants, on va s'y mettre quoi, il y a moyen d'y arriver.
Des délégués Zito, on en a combien là sur le campus?
Deux
seulement.
C'est tout? Il y a ouais. Que le CP, le CS qui brasse.
Imagine un peu les infrastructures qu'il faut pour stocker ces cuves, pour laisser
là on le fait très bien avec un local hein, ici. Bon, on a un grand local, on a un appartement en fait.
on a malgré tout pas de local dédié à ça. Donc il faut toujours trouver un endroit où la stocker. Il faut trouver le temps de la brasser. Il faut un peu de tranquillité pour ça. Donc, puis il faut savoir la mettre en bouteille. Et je suppose que l'achat d'une cuve, etc., demande aussi quelques investissements. Ce qui n'est pas négocié partout.
À partir de combien on peut commencer à brasser de la bière?
50 euros.
De la bonne bière.
Non mais en fait il y a toujours, en fait si tu veux, pour brasser de la bière artisanale il y a trois procédés globalement. Si vous tapez sur internet vous tomberez dessus facilement. Il y a brasser à partir d'extraits, donc en fait c'est un peu, je sais pas si vous suivez Ali et Fines Herbes quand ils font à manger. Voilà, vous avez les ingrédients déjà découpés, tout est déjà prêt et c'est pas vraiment de la cuisine quoi. Ben c'est un peu le même principe avec le brassage à base d'extraits. On vous sert un extrait doublon, un extrait de malt, vous mettez ça dans une casserole avec de l'eau, vous tapez vos levures dans un petit seau de 5 litres, vous mettez un couvercle, vous attendez 2 semaines et vous aurez quelque chose qui ressemble à de la bière.
Juste pour préciser, High Fines Herbes, ça s'écrit H-I-G-H. Voilà. C'est disponible sur YouTube et c'est animé, il me semble, par les rappeurs Caballero et Jean Jass.
Exactement.
Et ben moi, j'avais pas la ref.
Voilà, mais c'est pour ça
mais que. Voilà, mais c'est pas mal d'expliquer, désolé, j'aurais peut-être
ma
dû.
Ma grand-mère n'aura pas non plus, donc c'est pour elle.
Il y a une solution intermédiaire que je vais pas détailler, mais qui est sur internet aussi. Et la troisième solution, qui est le brassage tout grain et qui se rapproche en fait sensiblement de ce que font les professionnels. Donc en fait, on peut, comme en cuisine de nouveau, on peut définir chaque paramètre de la bière, le travailler et ça aura un effet sur le rendu final. Et donc nous, directement, quand je me suis renseigné, je me suis dit, voilà, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt d'investir, parce qu'il faut quand même un petit peu acheter quelques trucs, pour au final brasser des extraits. Donc c'est-à-dire vraiment le travail est pré-mâché, on ne fait rien. Enfin, aller voir sur internet, vraiment, c'est, quand je vous dis c'est des extraits, c'est on prend un sachet avec du jus de houblon, concrètement, du jus de malt,
c'est un peu comme si
tu mélanges et tu as ta bière. Alors que nous ici, on achète le malt, on l'achète en grains, on le moue nous-mêmes, ensuite on le cuit, ensuite on le filtre, on le recuit et on le fermente. Donc voilà, on est vraiment dans une toute autre démarche. On peut influer sur tous les paramètres de la bière, du choix du malt, du choix du houblon, du choix des épices, du choix du houblon en fermentation. Voilà, on peut vraiment tout faire. Et au final, pour un budget relativement raisonnable, quand on voit le vrai coût que ça implique de brasser, même en semi-professionnel.
Donc pour vulgariser à 100%, c'est la différence entre un café qui nous sert un chocolat chaud Nesquik lait et un café qui prend son propre chocolat issu de ses propres cacao et du lait de sa vache du jardin.
Ou même alors, tu parles du café, voilà, si tu prends la machine à café, soit tu as ta dosette avec ton café moulu que tu mets dans ta machine et ça te sert ton café, soit tu viens remplir avec ton grain de café que la machine moue instantanément, tu as ta petite mousse de lait, tu as ton caramel acheté localement, voilà, ça c'est le brassage.
Ton exemple est mille fois meilleur que le mien.
Je me suis demandé, tu parles de café, pourquoi tu parles de chocolat chaud juste après? Le café c'est parfait.
Je sais pas.
Non, mais c'est pas mal, il a essayé, non, mais l'image est bien. Et enfin voilà, vous pouvez avoir la même chose avec la cuisine, vous pouvez aller chercher un plat tout préparé, vous le mettez au micro-ondes. C'est presque ça le brassage avec les extraits. Ou alors vous allez chercher tous vos ingrédients. Bon, j'exagère un petit peu, je vais pas chez le producteur de malt, j'ai un site internet où j'achète mon malt, mon houblon, etc. Mais j'achète tous les ingrédients séparément et je cuisine moi-même. Il faut savoir que le brassage nous prend une journée pour obtenir on va dire un liquide fermentissible, donc il va pouvoir devenir de la bière, 2 semaines pour qu'il fermente, 2 semaines pour qu'il refermente, pour qu'on ait du pétillant quand on y arrive, et ensuite on peut boire la bière. Donc en gros, voilà, ici pour le processus qu'on a, ça nous met un mois et demi pour avoir une bière. C'est relativement rapide. Il faut savoir que le procédé ancestral guidé par Mère Nature, donc que Cantillon utilise notamment à Bruxelles, si vous étiez venu à la visite, vous le sauriez, il faut entre 1 an et demi et 3 ans pour fabriquer une bière naturellement.
Ah, nice. J'avais une petite question. Vu que tu as créé ce poste, ok, tu as créé ce poste grâce à ta passion. En fait, voilà, tu étais passionné, tu t'es dit, bon, voilà, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice de Saucerre, je vais créer la bière. Est-ce que tu prends note de tout ce que tu fais pour peut-être léguer tout ça au prochain délégué Zito, ou tu ne le fais pas?
Ah, voilà, ça fait partie des faiblesses actuellement. J'ai beaucoup de choses en tête pour les brassins.
Ce serait intéressant que tu calcules.
Je devrais
vraiment,
en fait, noter
je de, la densité, je parce que tu ne calcules pas la densité, Adrien.
Comment tu sais ça? C'est quoi la densité?
Un flashback, un déjà vu.
Du coup, vu que tu es un fin connaisseur, tu nous expliques un petit peu?
Déjà, tu ne me vises pas moi, c'est Pierre qui m'a lancé dessus.
Mais effectivement, donc, comme je t'explique, ici on est vraiment dans une démarche d'amateur. Donc on est vraiment des amateurs. On apprend à faire de la bière, on apprend le processus. Et voilà, moi je suis constamment en train d'apprendre, je n'ai fait aucune école de brassage, j'ai tout appris sur des forums, sur des sites internet, et donc et aussi grâce à des gens sur Facebook où je pose des questions, qui répondent à mes questions, qui m'éclaircissent, et voilà, notamment quelqu'un que je remercierai jamais assez, qui pendant le dernier brassage, la cuve ne fonctionnait pas, je lui ai envoyé un message, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, je l'ai jamais vu, c'est pour ça que je trouve que la communauté de brassage est géniale. Un quart d'heure après, il me répondait « Ah, voilà, tu vides ton liquide, tu regardes au fond, ça a sûrement cramé, tu grattes, tu recommences et ça va fonctionner. » Et effectivement, 25 minutes après, ça fonctionnait, alors que ça faisait 3 quarts d'heure qu'on était bloqué. C'était la 5e fois qu'on voulait brasser cette année, qu'on était bloqué par les aléas du sort. Et là, la cuve fonctionnait pas, donc j'étais à 2 doigts de pleurer. Et voilà, le gars nous a répondu en 15 minutes et on a réussi à relancer. Et la bière sort, pas très pétillante, mais elle sort. Et elle est bonne.
Ah, c'est pour celle de là maintenant.
C'est pour celle de là maintenant. C'était la toute nouvelle cuve, que c'était la première fois qu'on l'utilisait. Et au bout de 5 minutes d'utilisation, elle s'éteignait. Donc j'étais dépité. Et comme quoi, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Et n'hésitez pas à demander de l'aide. La communauté brassicole amateur est vraiment, en tout cas, géniale.
Bah ouais. Elon Musk, il avait raison. On peut tout apprendre avec Internet. Hein.
Tout.
Et j'ai une petite question, Pierrot. Quand est-ce qu'arrive... Moi qui voulais faire le mariole.
Il a levé les yeux au ciel pour singer la phrase.
Comme tu t'es gouré, on va vous offrir un deuxième super bruit d'ouverture de bière. Le voici.
Très propre ceci.
Quand arrive la bière à l'UNIF ? Pierre.
Alors, ben, la bière à l'université, je pense que c'est une histoire qui remonte à trop loin pour qu'on s'en souvienne. Parce que si vous mettez quelques étudiants dans une pièce, fort à parier qu'ils auront soif, parce que chanter demande de s'hydrater le gosier, et du coup la bière est intimement liée à la vie étudiante de toute façon. Après, à l'université, c'est un peu plus particulier, à l'Université Libre de Bruxelles, on est quand même en Belgique, pays de bière depuis suffisamment longtemps pour s'en vanter, on va retrouver très tôt, parmi les sociétés étudiantes, parmi les premières sociétés étudiantes, donc on est encore... plus de 50 ans avant le cercle Solvay, les premières mentions de bière. Et cette bière, d'abord, elle se chante. Elle se chante avec un chant que tous nos bleus apprennent désormais, qui s'appelle La Bière. La Bière qui est un chant publié en 1866, donc on est déjà dans ces eaux-là.
Tu l'as trouvé, la date, entre-temps? Il fait le malin. Je ne l'avais pas tout à l'heure.
C'est vrai, t'avais pas.
Parce que pour nos auditeurs, on a un peu fail la première tentative.
C'est vrai.
Et il n'avait pas la date.
Dès le début, les étudiants chantent cette bière. C'est devenu quasiment un chant sacré que tout bleu doit connaître en arrivant à son jugement. Et donc voilà, ça témoigne de l'importance. Au point qu'une des premières sociétés étudiantes, donc, qui s'appelait Les Crocodiles, qui a édité ses propres commandements, donc 10 commandements que tout bon membre de la société devait suivre. Le premier, par exemple, ton inscription tu prendras, mais pour la frime seulement. Le second, à tous les cours tu te rendras au moins 3 ou 4 fois l'an. Voilà, donc ça vous donne un peu l'esprit potache qu'incarnent ses membres. Et le cinquième commandement, peut-être un des plus importants, pour le pharaoh tu professeras de l'estime profondément. Donc vraiment, on est déjà dans le respect de la bière au-delà de sa consommation. Je n'irai pas à parler de consommation intelligente, mais en tout cas de...
Une raison particulière de cette affinité entre les étudiants et la bière?
C'est pas cher. Et c'est efficace si tu veux en faire une bonne soirée.
Ah ouais, parce qu'une bonne soirée, c'est nécessairement alcoolisé?
Sans alcool, la fête est plus folle, mais elle n'est pas toujours plus marrante.
Vous pensez quoi des bières sans alcool?
Eh ben, écoute, j'ai découvert récemment une brasserie en Belgique. J'ai toujours une brasserie en fait.
Mais... Ouais.
En Belgique, écoute, je sais pas si tu savais comment on fait des bières sans alcool, mais c'est un procédé industriel. Donc jusqu'à présent, pour faire de la bière sans alcool, on brasse de la bière alcoolisée et on la désalcoolise au moyen d'un procédé industriel.
Un peu c'est comme le vin au final.
Voilà, c'est ce que font les brasseries industrielles pour obtenir de la bière sans alcool. Mais récemment, donc il y a quelques années, il y a un jeune flamand qui s'est lancé dans l'aventure de brasser une bière sans alcool artisanale. Donc ça s'appelle Force Majeure, de nouveau, c'est absolument pas sponsorisé, mais c'est des petits projets, donc n'hésite pas à donner le nom pour que vous allez les voir, parce que c'est vraiment des super projets. Et il a lancé sa gamme de bières sans alcool artisanale. Donc lui, il désalcoolise pas
ça
sa bière. Bah écoute, ça commence en Flandre, ça commence vraiment à démarrer.
Je me pose vraiment la question.
Mais il y a un marché parce que les gens, il y a vraiment des amateurs de bière qui ne peuvent plus boire d'alcool pour des raisons de santé ou par
parce
choix.
Ils ont trop abusé.
qui aiment encore vraiment la bière. Et lui, il a sorti une gamme de 5 bières, donc une blonde, une triple houblonnée, une crique et une brune, sans alcool, donc à 0,4%. Et elles ont vraiment... J'aimerais vraiment vous faire... je vais essayer de peut-être vous faire, pour le prochain podcast, une dégustation à l'aveugle. Je vous amène 3 bières, donc par exemple 3 triples belges. Je vous glisse la triple de Force Majeure sans alcool. Je serais curieux de savoir si vous allez deviner laquelle est sans alcool.
En vrai ? Ouais, vas-y.
Est-ce qu'on a le droit de boire plusieurs verres avant de rendre notre verdict ? Parce que alors ça...
Non, je vous sers 3 bières différentes, donc 2 alcoolisées, une sans alcool. Il faudrait me dire laquelle est sans alcool parmi celles-là. Et honnêtement, je suis pas sûr que...
C'est un peu comme passer le test du QI, j'ai peur de faire ce test.
on va s'entraîner. Je propose, Gary, qu'on s'entraîne avant avec quelques bières entre nous.
Histoire qu'on les reconnaisse. Voilà. Mais non, donc, mais c'est une question que je me pose parce que j'ai déjà entendu cette phrase et je pense qu'on l'a tous déjà entendu. La bière, c'est pas bon, c'est juste efficace.
Bah, non, écoute, je pense que ça va. Est-ce que je t'ai pas donné tort avec la Pastrigos de Iron?
Oui, mais non, mais je dis pas mon cas, mais j'ai déjà entendu parler, enfin, en comme quoi, bah en fait la bière c'est pas super bon, ouais, tout le monde sait que la bière c'est dégueulasse, blablabla quoi.
Mais c'est pour ça qu'il faut goûter des bonnes bières artisanales faites avec des produits locaux, avec du goût dedans. Il y a moyen de faire des bières avec beaucoup de goût, et il y a moyen d'apprécier les déguster, voilà. Il faut arrêter non plus aussi de se jeter, de boire directement, il faut apprécier un peu comme parfois du vin, venir un peu... sentir l'odeur de la bière, essayez, allez, honnêtement, vous
frérot,
vous
devinez. Dans les écouteurs, dans le retour qu'on a,
c'est horrible.
Ah non, ah j'aime bien ça, ah, ça donne un peu de cachet.
Mais écoutez, alors on va faire un peu le test. Vous avez quoi comme odeur sur cette bière-ci?
Franchement, à la sentir, ça sent pas bon. Ça sent tellement spécial. En fait, il vient de nous servir une nouvelle bière qu'on vient de finir de l'ancien verre.
C'est pas super.
L'odeur.
Et vous avez goûté déjà ou pas encore?
Non, mais justement, ça non, me donne pas envie parce que l'odeur est dégueulasse.
Bah, l'odeur, l'odeur vient peut-être un peu de sa puissance, mais à goûter, peut-être vous allez retrouver peut-être un peu au goût.
L'odeur vient de sa puissance, ça aurait pu être une phrase de Michael Youn, ça.
Aucune inspiration.
Si tu nous fais non, j'aime pas du tout.
Si tu nous fais boire une bière avec des trucs spéciaux dedans.
Ma barbe s'est hérissée.
Ah, moi j'adore.
Oh là là.
Et pour revenir à la qualité de la bière des étudiants, il faut savoir que bon, maintenant on ne jure que par la Pils. Avant, et comme on peut l'entendre dans la chanson La bière, les étudiants boivent de la Faro, ils boivent de l'Alambic, ils boivent de la Gueuse. Adrien va nous dire exactement la différence entre tout ça parce que moi j'en serais incapable. Mais voilà, l'étudiant ne s'est pas spontanément jeté simplement sur la bière. Il y a déjà des spécificités. On sait que certaines sociétés ont entre guillemets leurs favorites. Les crocodiliens boivent. De la Faro, les nébuleux aussi, les vénusoïdes qui étaient un ordre plus solvésien buvaient de la Munich.
Juste une seconde, voilà. Petite parenthèse, tout ça on en a parlé dans des anciens podcasts. C'est trois noms, je les ai entendus dans les anciens podcasts. Donc si vous voulez vous intéresser à ces sociétés.
C'était les premières sociétés étudiantes. Mais je souligne vraiment que. Voilà, il y a toujours eu quand même un attrait pour la bonne bière et c'est défendu, là je vous ai lu le règlement des crocodiliens, mais d'autres règlements vantaient un peu la bière dans ses spécificités. Évidemment, selon l'événement en question, ce n'était pas la même bière qui était servie.
Je me pose la question, où est-ce que les étudiants à l'époque consommaient la bière?
Alors il n'y a évidemment pas de locaux de cercle comme on les a maintenant. Donc pas de possibilité de contrabrasseur ou de pompe. Que détiendrait le cercle, et ça passe directement à l'ancienne par les bars, c'est-à-dire les étudiants vont dans un bar, les ordres ou les sociétés à ce moment-là louent des arrière-salles, donc parfois des tarifs un peu préférentiels, mais sinon les cercles étudiants se réunissent dans des bars. On peut mentionner d'ailleurs que le soir de la création du cercle Solvay, donc le 17 novembre 1905 à 20h30, la section commerciale, qui est l'ancien nom, après avoir fondé son association, va évidemment se réunir pour la première fois dans un bar où il est précisé qu'après quelques bières, le président déjà sert les premières coupes de champagne pour célébrer. Wow. Donc, les étudiants boivent dans les bars, ils ont parfois leur bar favori. Pour le Cercle Solvay, c'était le Luxembourg, avenue du Trône, qui a disparu aujourd'hui, j'ai vérifié.
Il y a quoi à la place de ça maintenant, t'as une idée?
Aucune idée, c'est désormais il y a les cliniques qui étaient à la rue Froissart qui ont déménagé, et ça doit être dans ces environs-là, mais la numérotation a tellement changé, il faudrait que je passe aux archives communales pour voir les plans cadastraux. Oui, je vais le faire. mais
vous voilà, en doutez ?
Il y a vraiment les bars favoris, et puis il y a les bars qui ont traversé le temps, évidemment. Le Diable au corps, qui a donné son nom à une guilde étudiante maintenant. Il y a la Tourelle qui existe toujours.
Le Diable corps ?
Le Diable au corps.
Et c'est quelle guilde ? C'est une guilde attachée à quel cercle ou...
La GDAC, c'est la guilde, à mon avis, du cercle d'histoire. Et le Diable au corps est un bar très fameux parmi les étudiants, au point que quand le Diable au corps va fermer. Les étudiants vont être très nombreux à se rassembler. Il y aura même un banquet avec les grandes associations étudiantes du moment, donc les Vénusoïdes, le cercle issu de Solvay, les Maccabées, les Nébuleux, etc. Le cercle polytechnique, malheureusement pas le cercle Solvay cette année-là, parce que nous étions Parc Léopold, donc pas du tout au même endroit. Et donc ils vont se rassembler pour rendre un hommage au bar pour sa dernière soirée. Donc, il y a quand même un attachement de la part des étudiants envers le bar qui les servait et qui, à mon avis, leur offrait quelques pintes au passage. La consommation devait déjà être en 2+1 gratuite pour les clients fidèles.
Il y avait aucun des nouveaux bars, enfin je sais pas, du coup je les appelle nouveaux parce que t'en parles pas, mais des bars qu'il y a au cimetière d'Ixelles à l'époque
au cimetière d'Ixelles.
Enfin, je pense notamment au Gauguin, Corto et c'est tout en fait.
Non, il y avait il y a la Tourelle qui existe toujours sur le carrefour de l'avenue Beuil, qui est un très vieux bar, bon, qui a changé maintenant et qui s'est dirigé vers quelque chose de moins étudiant sans doute, mais qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Dans les bars du cimetière d'Ixelles, effectivement, le Gauguin est peut-être le plus vieux parmi eux. Le Corto fait quand même ses 30 ans, ce qui est assez honorable, mais les autres sont de facture récente. Au 77 se trouvait un bar dont le nom me revient sans doute la Diligence, mais qui a aussi été un bar assez fameux pour les étudiants de l'ULB. Le nom reviendra sans doute. Mais l'endroit où on sommait évidemment beaucoup de bière aussi, c'est durant les baptêmes.
Ouais.
Les baptêmes, qui à ce moment-là s'appellent encore la dépoirification. Donc c'est vraiment dans l'idée d'accueillir l'étudiant qui sort de
Je pensais que la dépoirification, c'était juste avant le baptême.
Non,
c'était ça en fait.
Le mot baptême n'existe pas. Le mot baptême va venir quand la parodie du baptême catholique est assumée. Mais avant ça, c'est vraiment la dépoirification, l'idée de recevoir le jeune qui est un peu guindé, un peu coincé, qui sort d'Athénée ou de lycée, de lui faire découvrir les plaisirs de la vie étudiante. La bière en fait partie. Et durant cette cérémonie, dont on a quelques descriptions, le baptême en lui-même qui a fortement changé, se passe en une soirée, se concluait généralement par un demi, donc une chope de pharo, de lambic ou de gueuse, qui était versée sur la tête du nouveau, du bleu. Et c'est évidemment une moquerie du baptême catholique où l'enfant est baigné dans une flaque. Là, la bière...
Qui a eu l'idée de ça? Ça me tue.
Voilà.
Ça
la bière lui coule dessus.
Ouais, pourquoi on le fait plus?
Et les reçus étudiants, poils ou plumes dans l'avenir, parmi ses pairs.
Un oui ou non, pas plus d'explications. Il y avait déjà la peine à l'époque ou pas?
En quelle année?
J'ai dit oui.
Pour quelle année? Pour quelle année?
Moment de la dépoirification.
Oui.
Ok. Pfiou. On est passé à côté de Pierre qui explose là, parce qu'il peut pas parler plus, mais.
Il a eu du mal. Hein.
Ah ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre pharo, gueuse, lambic, sans doute?
Ouais, bien sûr. Mais en fait, c'est la même chose. Donc, je vais globalement te décevoir, mais.
Tu as cité les trois à chaque fois.
Donc, en fait, si vous voulez, qu'est-ce qui différencie les trois bières que tu viens de citer des autres? C'est que c'est des bières de fermentation spontanée. Donc, pour aller très très rapidement. La fermentation spontanée, en fait, c'est la manière ancestrale de faire de la bière. Donc, je citerai notre guide à la brasserie Cantillon, mais qui dit, voilà, la fermentation spontanée, c'est on accepte qu'on laisse mère nature nous guider pour faire de la bière. Donc, la fermentation spontanée, on va brasser la bière, un peu comme dans les autres procédés, et au moment de la fermentation, au lieu de mettre la bière dans un endroit fermé, de lui donner des levures industrielles et de la laisser créer l'alcool... On va la mettre dans un endroit ouvert, et c'est grâce en fait aux levures présentes naturellement dans l'air. Donc il faut savoir, sur Terre, il y a des levures dans l'air partout, des levures sauvages. Et c'est grâce à ces levures...
On dirait, mec, j'ai jamais entendu parler de ça.
C'est comme du pollen, quoi.
Donc en fait, c'est les levures. Les levures, c'est quoi? C'est un élément biologique qui va manger le sucre, le transformer en alcool et en CO2.
J'ai vraiment un Pokémon devant moi qui mange.
Ouais, j'ai eu cette image de Pokémon, parce que t'as dit sauvage, en fait, je pense. Oui.
Wow, nous sommes conditionnés.
Ces levures sauvages qui sont présentes dans l'air vont manger le sucre, le transformer en alcool, et c'est comme ça qu'on a
mais
de la bière.
Le processus est super long.
Alors oui, la bière en fait de fermentation spontanée, ça prend, donc pour avoir un lambic, donc au bout d'un an, le lambic a fermenté 90% des sucres présents dans la bière. Au bout de 2 ans, on monte à 95%. Et pour avoir les 5 derniers pourcents restants, il faut aller jusqu'à 3 ans. Et là,
c'est une bière qui se fermente un peu comme un bon vin.
Ou comme un bon fromage.
Oui, si, bien sûr. Donc en fait, la gueuse...
rien à voir avec la pils rapide que...
Donc en fait, le lambic, la gueuse, si vous voulez, c'est un peu la famille manquante des alcools. Si je cite le champagne, le cidre, la bière, ben, la gueuse, c'est un peu le quatrième. Donc le lambic. C'est-à-dire que c'est des bières, en fait, c'est un peu le même processus que le champagne, mais appliqué à la bière. Donc il y a un certain millésime. Donc c'est-à-dire qu'une gueuse, une crique, ça peut se boire 30 ans plus tard. Donc ça a 30 ans quasiment de... En fait, il n'y a pas de limite de consommation, parce que comme c'est vivant, comme c'est une levure sauvage, ça va en permanence refermenter. Donc chaque année, pendant un an, la bière va continuer à fermenter pendant la dans la bouteille et le goût va changer. C'est pour ça qu'on appelle ça des bières évolutives. Et en fait, bon, le rêve, ce serait pouvoir de se faire pendant un podcast une dégustation linéaire. Donc, c'est par exemple se prendre 5 gueuses, une gueuse de 2020, 2018, 2016, 2014 et 2012, et goûter la différence. Et je vous assure que la différence se sent, notamment à la visite Cantillon lundi. On a eu l'immense chance de pouvoir goûter une gueuse 2015, pardon, donc il y avait 5 ans, et on a aussi goûté une 2020, et honnêtement, le goût change. Et donc, il y a beaucoup de gens qui conservent leur gueuse pour pouvoir la boire pendant plusieurs années.
Au bout de combien d'années de maturation, ce n'est vraiment plus buvable? Parce qu'on sait qu'un vin peut tenir... On dit
pour la gueuse 25-30 ans.
Mais ah oui, quand même. En fait, je suis choqué, en fait.
Oui,
là.
J'apprends des choses.
Là, j'apprends des choses, mais phénoménales.
Ah ben, voilà, écoutez,
on ne s'y met pas parce qu'on n'en était pas encore arrivé là. Dans,
ah non, mais
mes bières préférées, en fait, c'est la fermentation spontanée. Et grand hommage à notre président qui n'est pas là, j'aurais aimé qu'il soit là, mais on est tous les deux fans de bière spontanée, de lambic.
Non, mais c'est incroyable, en fait.
Pour vous donner un peu les termes, la bière de fermentation spontanée, c'est le nom générique mondial. Donc, c'est-à-dire, c'est une bière qui fermente spontanément grâce à la nature, comme je vous l'ai dit, grâce aux levures présentes dans l'air. Là où les bières, toutes les autres bières, en fait, fermentent dans un milieu fermé, contrôlé, où on injecte des levures fabriquées industriellement. Donc, c'est depuis Pasteur qu'on sait faire ça. Avant, toutes les bières étaient fabriquées spontanément. Juste un tout petit instant. Et qu'est-ce qu'un lambic, du coup ? C'est en fait une bière de fermentation spontanée fabriquée dans la vallée du Payotte en Belgique, donc dans la vallée de la Seine. Donc en fait, le lambic, c'est une bière qu'on peut uniquement fabriquer dans la brasserie de la Seine en Belgique. C'est une appellation protégée.
C'est une appellation, ouais, c'est ça.
Voilà, c'est une appellation protégée qui veut dire en fait une bière de fermentation spontanée fabriquée dans la vallée de la Seine. Et la gueuse, c'est quoi ? La gueuse, c'est un mélange de lambic de plus de différents âges. Donc en fait, le lambic, comme je vous ai dit, il a plusieurs vies, en fait. Donc au bout de 18 mois, on a fermenté 90% des sucres, 2 ans, on est autour de un peu plus de, entre 90 et 95, et au bout de 3 ans, il a tout fermenté. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec une gueuse ? On va prendre un lambic de 3 ans d'âge, qui va être peu sucré, qui va avoir un peu plus de corps, et on va lui ajouter un lambic plus jeune, un lambic qui aura entre 15 et 18 mois, et qui sera donc un peu plus sucré.
On fait un blend,
et le sucre présent dans le lambic jeune va permettre la refermentation en bouteille. Donc quand on va mettre en bouteille, les levures vont continuer à manger le sucre et le transformer en alcool et en CO2. Cette fois-ci, la bière sera pétillante.
Bah, merci, Jamy.
Ok, déjà.
J'essaie d'aller vite et d'essayer d'être clair. Hein, mais voilà.
Qu'est-ce qu'on attend pour prendre un feu de cric, en faire une capsule temporelle, l'enterrer sous la terrasse du PH et la ressortir dans 30 ans?
Bah écoute, parlons-en aux trésorières et on va aller chez Cantillon. On a été visiter, ils ont un grenier avec 300 fûts de lambic. On peut aller en enterrer un.
Je trouve ça
si
beaucoup plus drôle, l'idée de le planter dans notre jardin qui est juste devant. Mec, on creuse.
Non, mais moi je sais pas fabriquer de lambic.
Non, mais moi j'ai creusé.
On achète un tuyau, un fût fait cette année, on défonce la terrasse, on l'enterre, on refait la terrasse.
Non, mais pas la terrasse, juste le jardin. C'est trop compliqué.
Sur la terrasse, on est sûr que personne n'y touchera, tu vois.
Et on l'ouvre dans 30 ans.
Pareil.
Et on l'ouvre dans 30 ans. C'est tout à fait possible. Mais il faudrait plutôt.
Imaginez-vous la gueule des délégués d'année dans 50 ans. Dans 30 ans, on avait dit 30 ans.
Quand on revient comme des connards avec des marteaux-piqueurs défoncer la terrasse.
Quelques vieux reviennent tuer une terrasse pour en sortir quelque chose. Ils ne savaient pas du tout. C'est juste génial, c'est priceless.
Mais du coup, l'idée est géniale. Hein. Honnêtement, c'est pas moi qu'il faut convaincre, ni Charlie. Mais au lieu de mettre un fût, il faudra plutôt mettre des bouteilles pour que ça continue à refermenter.
Tout me va.
On peut, par exemple, imaginer
c'est moins compliqué de mettre des bouteilles.
De mettre une caisse de 20 bouteilles de Gueuse Cantillon 2021 et on
combien,
les boit.
Ça coûte combien la bouteille?
8-10 euros.
Bon, c'est faisable,
c'est largement faisable.
Joker,
je pense que honnêtement, ça coûtera plus cher de creuser et de l'enterrer que d'acheter les gueuses. Mais honnêtement, il faut se rendre compte qu'on a vraiment une chance inouïe parce que j'ai déjà parlé avec quelques Français parisiens et pour eux, la Cantillon, c'est un produit ultra luxueux dans le monde. Si vous allez dans un bar à l'étranger, une bouteille 75 centilitres, parce que c'est le format le plus classique pour boire la gueuse. en 75, une bouteille de 75 centilitres de gueuse, ça se vend au prix de certains champagnes dans certains bars à l'étranger, donc entre 70 et 150 euros la bouteille, facilement.
Ok, bon. Bah, là je plaisante même plus, on a un vrai projet.
Non mais moi je suis
en
chaud.
En tant que délégué archive, nous avons face à nous un vrai partenariat possible qui naît en plein milieu de ces podcasts. Nous avons un vrai projet. Nous trinquions ce matin à nos passions communes. Il y a là un moyen.
Trinquons à ce nouveau projet.
De s'amuser pour les 30 prochaines années.
Et on revient dans 30 ans pour déterrer les bières. Voilà, on a j'ai un projet pour le Q2.
J'en parle à mes auditeurs que vous ne saurez pas où elle est.
À ceux qui écoutent ce podcast dans 30 ans,
on arrive.
Eh ben. Cherchez.
Cherchez, la gueuse est quelque part.
Dans le pH.
Non, pas dans le pH. Honnêtement,
on décèle une pierre du mur.
Attends, parce que là, tu me donnes des idées, mec.
Est-ce qu'on passerait pas à la suite? On brainstormera tantôt.
on va brainstormer hors podcast. De toute façon, les trésorières vont jamais écouter ça. Bisous. Ouais.
Bisous.
Je voulais arriver à un point. En fait. Hors contexte, tout à fait. Deux secondes hors contexte, Adrien.
Oui, bien sûr.
Mon micro est pété, je m'en rends compte maintenant. Ça veut dire que la voix que j'ai est tout à fait déformée. On repart dans le contexte. La consommation de bière à l'université, est-ce qu'elle évolue?
Avant de changer, je voudrais terminer de répondre à sa question. Donc, il me parlait de la Faro. Ça va prendre deux secondes.
T'as posé une question sur la Faro?
J'ai demandé d'expliquer Faro, gueuse,
lambic.
Mais mec, c'était il y a 10 minutes, ça.
Mais j'ai pas terminé mon explication, donc ça va prendre 30 secondes. Mais la Faro, c'est quoi en fait? C'est une gueuse, un lambic relativement sucré, parce qu'en fait on y ajoute un peu de caramel généralement. Donc c'est une gueuse lambic légèrement caramélisée. Et je vais peut-être en choquer certains, mais la crique, la vraie crique, donc pas tout ce que vous avez bu depuis que vous avez, j'espère pas 5 ans, mais la crique, tout ce qu'on trouve dans le commerce, à part les criques de fermentation spontanée, ce ne sont pas des vraie crique, parce que la vraie crique, c'est quoi? C'est un lambic auquel on ajoute des griottes, donc des cerises acides qu'on fait macérer dans le lambic, on les enlève et on obtient donc un lambic aux griottes. Et ça, c'est une crique.
Je suis débordé d'informations. Je ne vais jamais autant réécouter un podcast.
Non, mais c'est phénoménal, parce qu'à chaque fois, à la fin de chaque podcast, je me dis putain, j'ai appris énormément là avec l'histoire et tout ça. Mais là, je ne sais même pas ce que j'ai appris.
Ah oui, mais
ce que je veux dire,
tu nous enchaînes d'informations, mais tu le fais avec une passion qui me donne envie
Ça me fait plaisir.
On a envie de boire de la bière.
Moi, je vous propose, on va ramener des cantillons la fois prochaine en podcast et on en goûtera.
Je propose que pour les 10 prochaines années, en fait, on fasse juste chaise musicale entre nos trois postes. On ne quittera jamais ce cercle.
Écoute, je le souhaite.
On continuera à faire des podcasts.
J'aimerais savoir si l'un d'entre vous a une idée de l'augmentation ou la diminution de la consommation de bière à l'université par les étudiants.
Bah, on va pas se mentir, on boit plus.
On boit plus.
On boit
je suis plus fort que mon grand-père.
On boit évidemment plus pour plusieurs raisons. Déjà parce que la quantité totale, on est plus, donc on boit plus. Mais il y a surtout ce qui est apparu, les contrabrasseurs. Les contrabrasseurs sur lesquels l'ACE tenait une conférence avec Libre Examen et autres associations.
Le
assez
Big
récemment.
Five, comme tu l'as appelé le dernier podcast.
L'appellation ne vient pas de moi, je ne vais pas revendiquer ce
travail. Ça vient de qui?
C'est Philippe Lemoine qui m'a cité le fait.
C'est parti du Big Five en plus.
Voilà, qu'on l'avait appelé comme ça et que ça l'avait fait sourire. Mais donc voilà, ils ont tenu une conférence sur effectivement le contrabrasseur qui lie 32 des 33 cercles de la CE
31,
à BNBEV, mais qui ne lie pas le cercle Solvay.
Ni Polytech.
Ah oui, mais Polytech est quand même lié avec BNBEV. Pas dans le contrat commun, mais voilà.
Ils ont leurs avantages personnels.
je tenais simplement à souligner que de tous les peuples de l'ULB, le Solvay est le plus fort. Nous ne sommes pas encore chez BNBEV.
Attends, est-ce que tu as essayé de refaire une petite phrase
oui,
de ce genre-là?
Mais oui, bien sûr.
Ave Brancard.
Ave Brancard.
Charlie vous salue.
Et donc, ces contrabrasseurs vont permettre aux étudiants d'arriver à des consommations de bière à prix réduit, forcément, avec la quantité qui se commande, l'apparition des premiers bars dans les cercles étudiants. Donc, pour Solvay, nous disposons d'un local en 1966, mais c'est pas avant les années 80 que le bar Solvay naît réellement. Je travaille sur la date exacte, ça arrive. Et donc, à partir des années 80, les étudiants ont un bar, ils vont devoir s'approvisionner. Les premiers contrats sont très modestes. Seuls Solvay et Polytech ont des contrats dans un premier temps et ils revendent eux-mêmes aux autres cercles de l'ULB. jusqu'à il y a 5 ans, et le fameux contrat qui nous unit. Et
ce est-ce que c'est comme ça qu'on a fait toute notre fortune?
Non, jadis. Ça, c'est un peu plus tard, mais ça devait bien nous aider, ça c'est certain. Et plus tard, voilà, ce contrat écrase les prix, il est parfois remis en cause, parce que c'est important de remettre les choses en cause. Effectivement, ce contrat commun nous propose des prix très attrayants, mais à des sacrifices écologiques, puisqu'on sait que la consommation... l'agriculture intensive... ah mais non, on parle vraiment de la production de pils en masse, hein, c'est l'agriculture intensive de Malte voilà, qui a été remise en cause, c'est le monopole finalement dont dispose AB InBev en Belgique et dans le monde.
Donc, et voilà, à l'ULB c'est... du coup.
Et à l'ULB. Et finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que ces contrats brasseurs, est-ce que cette bière à 1 euro, ce que vous ne retrouverez dans aucun bar pour une bière de 25, et encore, ne paye 1 euro que les étudiants plus amateurs, ceux comme nous investis dans les cercles étudiants, on ne va pas se mentir, paye moins. On trouve même de la bière à 70 centimes, il me semble, ouais, dans d'autres cercles.
Non, ça, et puis même la plupart des promotions, la bière à 1 euro, c'est le prix, on va dire, plein. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu les prends groupés, je pense au plateau, au maître, etc., on descend globalement à 70 centimes la bière dans la plupart des cercles.
Oui, et pour certains, genre... Un rendito a payé peut-être 1 euro pour la totalité de sa consommation des 5 dernières années. Voilà, nous ne sommes pas tous égaux face à la bière. Mais voilà, est-ce que ces prix planchers, finalement, ne favorisent-ils pas une surconsommation de la bière? Quand on sait qu'à l'électrolitrage, Adrien nous disait tantôt qu'on est peut-être à 4000 hectolitres pour tout l'ULB.
Quasi... Pour le contrat commun.
Pour le contrat commun, je pense que Solvay doit tourner autour de 300-700. Je savais ça à l'époque où je m'occupais du contrat du cercle. Autour de 300 à 700 hectolitres à l'année, donc c'est des quantités non négligeables. Après,
franchement, j'espère qu'on se rapproche plus de 700 que des 300.
Juste pour vous mettre un petit peu en perspective, 4000 hectolitres, une microbrasserie, une petite brasserie artisanale, on va dire que ça se limite à 10 000 hectolitres. Une brasserie de moyenne taille, par exemple, je vais vous citer peut-être Saint-Feuillin, c'est 40 000 hectolitres. Et si on monte sur des brasseries industrielles, c'est déjà 200 000 hectolitres, notamment à Chouf. Donc vous vous rendez quand même compte que 4 000 hectolitres uniquement pour 32 cercles étudiants, c'est quand même déjà énorme. Il y a beaucoup de petites brasseries en Belgique qui rêveraient d'avoir ce débit. Donc faut se rendre compte que c'est quand même énormément de
bien. Non, c'est vrai, t'as
raison. Si je pense que la consommation a dû augmenter parce que, et je ne me base pas sur les chiffres, mais simplement sur les observations qu'on a citées, les occasions de boire n'ont pas vraiment changé. Je pense pas que les étudiants créent encore beaucoup d'activités.
Mais je pense juste le fait d'avoir un pH.
Oui, bien sûr, c'est ça. Le pH fait que ouvert de midi à 20, nous buvons plus. Mais je veux dire les activités bibitives.
Le local dans les caves du Janson, on était ouvert de midi à 20.
Quand c'était possible, c'était un peu plus selon l'humeur de tous. Ouais. Mais en tout cas, le local de la BD Tech, parce que nous en avons eu un, était ouvert effectivement toute la journée pour les gens qui voudraient se poser. Mais donc, les occasions bibitives, finalement, n'ont pas tellement changé. Il y a le Roi des Bleus, il y a la GEF qui existe depuis des dizaines d'années. La GEF qu'on connaît a été inaugurée en 1993, mais il y avait déjà une GEF qu'avant, bien sûr. Et il n'y a pas de création de nouvelles activités par des étudiants pour toujours trouver comment boire plus. Voilà, il y a un parallèle à faire. Est-ce que ça va encore changer? Certainement, on sait que l'université concocte régulièrement des nouvelles chartes alcool pour essayer d'encourager une consommation responsable.
Oui, surtout limiter la consommation. Limiter la consommation. Générale.
Et il y a des initiatives comme Samsoul, qui est une association très présente sur le campus pour la sensibilisation à la surconsommation d'alcool, à l'ivresse, etc. Et qui fait un travail nécessaire et important parce que boire, c'est très amusant et nous le faisons tous, c'est tant mieux. Mais il ne faut pas tomber évidemment dans le piège absurde de trop boire.
Bah, écoutez les petits potes, je pense que ça va marquer la fin de ce podcast.
Déjà ?
Une touche un peu triste. Est-ce qu'Adrien peut nous raconter une anecdote, je sais pas, ou
c'est
un dernier conseil?
C'est pour toi, t'as plus que quelques minutes. Hein.
Adrien, raconte-nous, conseille-nous une dernière bière pour finir sur une touche un peu joyeuse.
Ouf, une dernière bière à conseiller. Honnêtement, c'est le nom.
La dernière bière que tu buverais.
Oh, avant de mourir. Ça, c'est dur. Bah, alors, actuellement, je mettrais quand même l'urine, qui est une double IPA.
Oh, mais tu ne fais que de me surprendre aujourd'hui, en fait.
Faite par Brasserie du Borinage. C'est une bière, en fait, hyper légère. Enfin, voilà, elle est à 7% et elle en fait 2 en bouche. Il y a un goût exceptionnel. Enfin, vraiment, l'Abbé ne fait pas le moine n'a jamais autant résonné dans ma tête qu'en pensant à cette bière.
Et mec, pour c'est partager dingue, la conclusion, parce qu'elle était exceptionnelle, donc j'ai envie quand même d'essayer d'arriver à la hauteur. On a cité deux délégués ZITO sur le campus, donc nous et le Cercle Polytechnique. Il serait plus correct d'en citer un troisième, puisque l'UAE, l'Union des Anciens Étudiants, fait également sa propre bière appelée La Plume depuis maintenant 3 ans, et elle est, je pense qu'on peut la commander à l'occasion des Saint-V ou la boire à l'occasion des événements de l'UAE ou à leur local.
Est-ce qu'ils la brassent eux-mêmes ou est-ce
oui,
que c'est une façon...
ils la brassent eux-mêmes. Après, je ne sais pas, tu as parlé des différents niveaux de possibilités. Je ne sais pas quel est l'investissement de
l'UAE dans le processus. Ils peuvent avoir créé la recette et la faire brasser par quelqu'un.
Non, ils la brassent eux-mêmes, ça je suis presque
super chouette. Ouais.
Bon, bah écoute, après ce fact-check intense...
Appréciez les bières, appréciez les bières. Podcasts.
Exactement, et puis bah, juste... On espère que vous avez bu une bonne bière en les écoutant.
Après, c'est les archives, je suis là aussi.
Et pour le prochain histoire de bière, on vous parlera peut-être plus du processus de fabrication, si ça vous intéresse.
Probablement. On va faire une série dédiée à notre amour pour la bière, que Adrien va chapeauter. Tu vas chapeauter tous les podcasts ?
Je vais plutôt partager ma passion.
Il va partager sa passion.
Et nous proposer de nouvelles dégustations.
Est-ce que je dois trouver un rimension? On espère que vous avez vraiment apprécié ce podcast. N'hésitez pas à liker, à le partager, à en parler à vos potes, à commander les bières qu'on a dégustées. On va certainement vous les lister dans la description de ce podcast. Comme vous l'aurez entendu, mais je vais les répéter au début, je vais faire une petite intro à part ce qu'on est en train de tourner maintenant. Mon micro est le micro cassé parmi les quatre. J'ai mal géré. Et voilà, merci à tous les deux d'être venus. Merci Adrien de nous avoir appris tellement de choses.
Merci Gary.
Je vous en prie.
Merci à tous.
Bisous.
Merci, bisous.